Saviez-vous que Domestika vient de souffler sa première bougie en France? La plateforme de cours vidéo pour les arts créatifs, entre autres, a déjà publié 50 cours en français. Il publie d'ailleurs un nouveau cours en français par semaine. Au programme, des nouveaux cours de broderie, de tricot, de patchwork, de teinture ou d'upcycling. Et puis, toujours des sujets connexes intéressants pour les créateurs, comme le storytelling sur Instagram et la photographie argentique par exemple. Au total, ce sont plus de 2000 cours qui vous sont proposés dans plein de langues différentes avec des sous-titrages. Personnellement, j'ai suivi un cours sur la photo récemment et le traitement sur Lightroom en anglais. Et c'était top, je me suis sentie plus à l'aise pour prendre des photos ensuite. Ça a été le petit shoot de confiance sur le sujet qui me manquait pour me lancer sereinement. Et dernière info, mais pas des moindres, il y a désormais des partenariats avec des fournisseurs de matériel de DIY qui vous permettront d'avoir des remises à la suite de l'achat de cours. De quoi continuer à créer avec un petit coup de pouce sympa. Allez, place à l'épisode. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Fais Main, le podcast de la communauté Do It Yourself qui part à la rencontre des entrepreneurs créatifs. Je m'appelle Mélanie Sena, j'adore créer et je suis très heureuse de partager avec vous mes conversations avec des créatrices et des créateurs que vous suivez peut-être comme moi sur Instagram. Qu'ils créent avec du papier, du tissu ou de la laine, avec des crayons, des aiguilles ou des pinceaux, découvrir leur parcours et les coulisses de leur entreprise créative est un régal d'inspiration. Aujourd'hui, on part découvrir les coulisses de Longue avec Anna, une marque bien connue des tricoteuses. Anna a toujours créé, mais c'était plutôt côté couture et broderie au départ. Elle a fini par découvrir le tricot et c'est un vrai mode de vie qu'elle a trouvé. Son parcours est hyper intéressant. En quelques années, elle est passée d'orthophoniste à chef d'entreprise en Angleterre. Elle nous raconte la création de ses premiers patrons de tricot, le soutien inconditionnel de son mari, la manière dont elle s'est entourée, l'ouverture de sa boutique. On a également parlé de ses livres, de ses revendeurs partenaires, de la création de ses propres laines et des difficultés liées au Brexit. Bref, un épisode riche comme on les aime. Bonne écoute!
Bonjour Anna, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Fais Main, bienvenue.
Bonjour Mélanie, merci beaucoup de m'accueillir. Je suis très contente d'être là aujourd'hui pour cet entretien, pour ce podcast.
Merci, plaisir partagé. Aujourd'hui, on va parler ensemble de tricot parce que c'est ta passion, ta vie.
Exactement.
Tout ce que tu fais est autour du tricot et de la laine, c'est bien ça. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît, pour démarrer?
Bien sûr. Alors, je suis Anna Dervoet, en fait Anaïg, mais j'utilise le nom d'Anna. J'ai 35 ans, je suis française originaire de Bretagne, mais j'habite en Angleterre avec mon conjoint et nos deux petites filles depuis maintenant 5 ans. Et je suis la fondatrice de Longue avec Anna, qui est une marque aujourd'hui de laine éthique, mais également de patron de tricot. C'est comme ça que j'ai commencé, et d'accessoires tricot. De tout type. Donc voilà, je suis la créatrice, la fondatrice et la designer du coup derrière les patrons Longue avec Anna également.
Très bien. Et ton mari, enfin ton conjoint est anglais?
Oui, mon mari.
C'est pour ça que vous êtes en Angleterre.
Voilà, mon mari depuis un mois, depuis un.
Oui,
un
ton mari,
depuis 5 semaines aujourd'hui, je dois dire mon mari. Mais voilà, il est anglais et avant de vivre en Angleterre, on habitait au Canada et quand on est rentré en Europe, il a trouvé un travail en Angleterre, donc j'ai décidé de le suivre. Et donc on s'est installé, on est à Exeter, c'est dans le sud-ouest, dans le Devon, au-dessus de la Normandie et depuis du coup fin 2016. Déjà.
D'accord. Et vos deux petites filles, donc, du coup, ont la double nationalité ?
Oui, c'est ça. Donc, Alice, la plus grande, elle a la triple parce que comme elle est née au Canada, elle a aussi la nationalité canadienne. Et Suzanne, la chanceuse. Et Suzanne, la plus petite, qui va avoir 2 ans, elle, du coup, elle est née en Angleterre, donc elle n'a pas la nationalité canadienne, mais elle est anglaise par mon mari et française par moi. Donc, elles ont toutes les deux au moins 2 nationalités, les chanceuses.
Ouais, j'adore. je trouve ça génial.
Voilà. Nous, on en a chacune qu'une seule, mais voilà. Ouais.
Et donc, forcément, elles sont quoi? Elles sont bilingues? Elles sont... Tu leur parles
oui,
en français
oui.
Et elles... et ton mari, il leur parle en anglais, c'est ça un peu l'idée? Souvent, c'est un peu comme ça dans les couples mixtes.
Oui, c'est ça, exactement. Donc moi, à la base, avant le tricot, je suis orthophoniste et spécialisée dans les enfants bilingues ou multilingues. Donc c'est quelque chose que je connais bien. Et effectivement, je ne leur parle exclusivement qu'en français. Harry, mon mari, parle très très bien français depuis qu'on a vécu au Canada. Donc il a tendance à leur parler pas mal français à la maison. Sinon, il leur parle aussi en anglais. Et comme à l'extérieur, il y a beaucoup d'anglais, on essaye qu'à la maison, la langue soit le français le plus possible. Et donc, elles sont toutes les deux bilingues. Donc, Alice, qui a 6 ans et demi, parle très, très bien les deux langues et comprend bien évidemment tout. Et Suzanne, qui a 2 ans, son développement de langage est un petit peu en retard parce que c'est toujours comme ça avec les enfants bilingues ou multilingues. Donc, elle a des mots un petit peu dans les deux langues, mais elle n'a pas encore beaucoup de mots. Par contre, elle comprend tout. Elle comprend les consignes autant dans une langue que dans l'autre. C'est assez incroyable de voir ce développement-là chez les deux.
Ouais, c'est génial. Moi, j'adore. Bon. Ça n'a rien à voir avec le tricot, mais je trouve ça génial, quoi. Pour les enfants, c'est une richesse folle, quoi.
Moi, je suis bilingue, mais je le suis devenue avec les années et j'aurai jamais le bilinguisme qu'auront mes filles qui ont ça depuis la naissance, en fait. Donc, c'est vrai que c'est assez fou de voir que, voilà, même à 10, aujourd'hui, elle va avoir 2 ans, mais même à 1 an, 18 mois, elle comprenait les consignes des deux langues de la même façon. C'est quand même assez incroyable, je trouve.
Ouais, c'est génial. Bon, alors, donc, tu disais que tu étais orthophoniste, donc ça veut dire que tu as eu une formation qui n'avait rien à voir avec le tricot et la laine. Comment tu es arrivée à cet univers-là?
Oui, alors comme beaucoup de personnes, je pense, en tout cas dans mes collègues designers, etc., on n'a pas forcément eu une formation à la base dans ce domaine-là. Moi, je suis tombée dans les loisirs créatifs, en fait, quand j'étais jeune enfant, jeune adolescente. J'ai toujours fait beaucoup de couture à la base. Je suis venue vraiment aux loisirs créatifs par la couture, la broderie. Et en fait, j'ai pratiqué les loisirs créatifs de façon plus ou moins importante dans ma vie en fonction des périodes. Donc, quand j'étais par exemple à l'université, j'avais complètement arrêté parce que j'avais pas le temps. Et puis, après mon diplôme d'orthophoniste, je suis allée travailler au Québec comme orthophoniste. Et en fait, j'avais laissé tomber les loisirs créatifs depuis toute mon université parce que j'avais pas le temps de le faire. Et je suis tombée par hasard sur Internet, sur le blog de Jolie Bobine. Qui est une blogueuse couturière. Et je me suis dit, depuis les 8 ans que j'ai pas pratiqué la couture, les choses, elles ont bien évolué et on n'est plus juste au patron de Burda. En fait, il y a l'air d'avoir plein de patrons sympas. Donc, je suis allée chez Canadian Tire, qui est une boutique de un peu de tout, en fait, de bricolage, etc. Et j'ai acheté une machine à coudre. Et j'ai dit à Harry, mon mari, j'ai envie de recommencer la couture. Et donc, je m'y suis remise comme ça. Et en fait, quasiment tout de suite en même temps, j'ai ouvert un blog parce que j'ai un de mes amis au Canada qui m'a poussée à faire un blog comme Julie de Jolie Bobine en me disant « ça serait chouette que tu partages tes créations ». Donc, j'ai ouvert un blog qui à ce moment-là était le fil à coudre d'Anna. Là, on est en 2013. Et puis j'y partageais en fait dès que je faisais de la couture et j'en faisais beaucoup, je faisais environ peut-être 2-3 vêtements top pantalons par semaine, je cousais énormément. À chaque fois on allait prendre des jeux. j'avais vraiment après ça s'est réduit, je faisais à peu près un par semaine, mais j'ai eu une période où je faisais beaucoup. En fait, j'ai refait tout mon dressing avec que du fait main. En gros, c'est ça. Et comme j'avais du mal à trouver des vêtements à mon style au Canada, à cette période-là en tout cas, c'était parfait. Je faisais mes robes, elles étaient toutes à ma taille, Et en fait, l'idée, c'était ensuite d'aller faire des photos dans des jolis endroits de Montréal et de mettre des articles sur le blog. Donc j'ai vraiment beaucoup utilisé mon blog. J'ai adoré partager mes créations, faire des reviews de patrons, de tissus. Et puis, en 2015, je suis tombée enceinte, d'Alice, ma grande. Et les personnes que j'avais rencontrées à Montréal, qui faisait de la couture, faisait toute du tricot. Et moi, le tricot, j'en avais fait un petit peu étant adolescente, mais genre une écharpe, et puis j'avais pas une ou deux écharpes, et j'avais pas du tout accroché. Et là, quand j'ai vu, en fait, la beauté des patrons qu'elle tricotait, la beauté des laines, ça m'a donné envie. Donc là, on est en 2015, je commence à fréquenter, début 2015, je commence à fréquenter la Maison Tricotée, qui est une très chouette boutique salon de thé à Montréal. Et je me suis lancée dans le tricot, du coup tout de suite le tricot en rond parce que c'est ça qu'elle faisait. Et elles m'ont tout appris en fait. Elles m'ont appris les aiguilles circulaires, la laine, comment suivre un patron, donc en anglais sur Ravelry. Et je me suis mise à tricoter. Donc petit à petit, je partageais aussi mes projets de tricot. Et en fait, avec ma vie de jeune maman, je trouvais que le tricot s'intégrait beaucoup mieux à cette vie-là que la couture, parce que ma pièce de couture était désormais devenue une chambre de bébé, donc j'avais plus de place, alors que le tricot, je pouvais faire ça partout, tout le temps, aller avec mon bébé dans un parc et puis tricoter, je pouvais l'emmener à la maison tricoter, enfin, je pouvais le poser dès que mon bébé avait besoin de moi. J'ai trouvé que c'était très pratique et ça m'a apporté beaucoup aussi au niveau apaisement. Et puis petit à petit, le tricot a pris une place quand même très très grande et j'ai un petit peu délaissé la couture qui me manque quand même, mais je ne trouve pas le temps alors que je trouve toujours du temps pour tricoter.
Ouais. Et donc, tu te serais sentie de faire finalement ton entreprise créative autour de la couture ou c'était pour toi c'était forcément autour du tricot après. Enfin, tu vas nous raconter comment c'est venu cette histoire d'entreprise.
Oui. Alors, pas du tout. J'aurais jamais imaginé me lancer dans une entreprise créative autour de la couture. En fait, on m'a dit plusieurs fois, oh, tu fais tellement des belles associations, patrons, tissus, t'as pas envie de lancer tes propres patrons. Et j'étais là, non, j'ai des idées, mais j'ai pas forcément envie de les mettre sur papier. Puis alors, là, on va vraiment dans le modélisme avec un besoin de logiciel spécifique. Il faut vraiment une vraie formation. Enfin, moi, je ne me sentais pas du tout. Même si, au lycée, j'ai failli ne pas faire un bac littéraire et partir en école de mode. Hein. Je voulais être styliste à cette époque-là. D'accord. Et puis, en fait, là, 10 ans après, je me disais non, j'adore le fait de partager ça comme un hobby, mais j'ai pas du tout envie que ça en devienne un métier. En tout cas, ça, c'était pour la couture.
D'accord. Et alors, comment s'est née justement cette entreprise Elong avec Anna, côté tricot?
Voilà. Donc, elle est née complètement par hasard, entre guillemets. Enfin, elle n'était pas du tout prévue, c'est ça que j'aime bien en fait, c'est que ça s'est fait petit à petit, ça a grandi petit à petit sans aucune attente à la base. En fait, comment ça s'est passé, c'est que donc je tricotais beaucoup, voilà. Et puis en 2016, notre visa canadien québécoise expirait et il fallait qu'on fasse la résidence permanente pour avoir le droit de rester, mais ayant un enfant, on avait envie de rentrer près de nos familles. Donc, on a décidé de rentrer et on s'est installé donc en Angleterre parce que c'était l'idée de qui allait pouvoir avoir un travail le premier. Parce que, évidemment, aujourd'hui, d'accord, on avait un enfant à charge, etc. Ouais. Et moi, en fait, j'ai étudié l'orthophonie en Belgique, à l'Université de Bruxelles. Et du coup, mon diplôme belge ne m'autorisait pas à travailler en France parce que j'avais pas l'équivalence encore. Et ne m'autorisait pas non plus à travailler en Angleterre parce que je n'avais pas l'équivalence au niveau de la langue, parce que j'avais étudié en français. Donc, j'étais un petit peu coincée.
Ah oui, d'accord.
Voilà, donc il a fallu que ça soit mon conjoint finalement qui trouve le travail, à moins d'aller s'installer en Belgique. Mais lui, il avait pas trop forcément envie d'aller en Belgique, voilà. Et même si j'ai essayé de le convaincre d'aller à Bruxelles, il voulait découvrir autre chose. Et puis donc il a eu le job le premier donc à Exeter dans une région qu'on connaissait pas en Angleterre, donc je l'ai suivi. Et puis moi je me suis retrouvée donc à la maison avec ma petite qui avait à peu près 1 an à ce moment-là, sans possibilité de travailler. J'ai évidemment fait mon équivalence et française et anglaise pendant ce temps-là, mais j'ai adoré m'occuper de ma fille, mais il y a quelque chose qui me manquait en fait au quotidien. Je suis quelqu'un qui a toujours travaillé depuis que j'ai 16 ans, mais même avant parce que je faisais beaucoup de babysitting depuis mes 14 ans. J'ai toujours eu l'habitude d'être indépendante financièrement et je trouvais ça difficile en fait moralement d'être complètement dépendante de mon mari et de pas pouvoir faire mon travail. Et puis, j'avais, en même temps, j'avais des idées de tricot, de petits pulls que j'avais envie de faire pour Alice, etc. Et puis, j'ai dessiné le Dent de Lion, donc voilà, qui est un petit patron très simple de gilet pour enfants, avec un point que j'avais trouvé dans un vieux livre de tricot de ma mamie. Et j'ai eu envie de le faire. Donc, je l'ai fait pour elle, juste comme ça. Et puis, mes copines, toujours les mêmes de Montréal, m'ont dit, mais Anna, ton patron, enfin, ton petit pull, ton petit gilet, il est trop mignon, il faut que t'en fasses un patron et que tu le sortes sur Ravelry, qui est donc le site de communauté de tricot où il y a beaucoup de patrons en vente. Alors, je dis, OK, mais moi, j'y connais rien, en fait, en gradation. Et donc là, je me suis mise là-dedans. En fait, j'ai commencé, j'ai sorti des livres, beaucoup en anglais, j'ai fait beaucoup de recherches sur Internet, j'ai essayé, j'ai fait des tests avec des testeuses, j'ai tricoté pas mal de prototypes pour essayer de construire mon patron. J'ai ensuite travaillé avec certaines de mes amies au niveau de l'écriture des instructions pour que ça soit compréhensible, etc. Et le fait de mettre là-dedans et d'avoir mon propre truc de travail en plus du bonheur évidemment de m'occuper de ma fille, ça m'a fait beaucoup de bien en fait moralement et je me suis vraiment mise à fond là-dedans. Mais j'avais aucune attente quoi. Enfin voilà, et puis j'ai sorti. Voilà, c'était vraiment pour plaisir. Et puis, j'ai sorti le patron. Donc, ça, c'était 2017. Donc, pas un an, mais peut-être 6-8 mois après qu'on soit rentré du Canada. Et en fait, il a très bien marché. Voilà, je sais plus combien j'en avais vendu, mais j'avais dû en vendre 50. Ce qui, pour un patron enfant de quelqu'un qui n'a jamais fait de patron, était énorme. voilà, j'avais dû, je sais plus, faire genre 200 euros. Et du coup, de me dire, waouh, j'ai contribué en fait j'ai à nouveau contribué. Comment dire, à la vie de famille au niveau financier, ça m'a fait du bien en fait de me sentir.
Ah ouais,
c'est
ouais.
Bête, hein, mais voilà, il y a des personnes qui voilà, juste s'occuper de leur enfant, etc. Ça leur convient très bien et c'est très très chouette parce qu'il y a plein de choses, surtout en Angleterre, il y a plein de playgroups et tout ça. Mais moi, j'avais besoin d'un truc créatif à côté en fait. Ah. Et finalement, ça s'est imposé à moi sans que je sans que je l'ai prémédité. Et du coup, j'ai eu vraiment des très bons feedbacks sur ce patron qui aujourd'hui reste un des plus populaires. Et du coup, je me suis dit, oh, bah, j'ai envie d'en faire un autre. Donc, j'en ai fait un autre. Et puis, quelques mois après, j'en ai fait un autre. Et puis après, on est en mars 2018. On m'a demandé la version femme du Dent de Lion. Donc là, c'est pareil. Je me suis remise dans les livres pour essayer de comprendre, faire des essais pour grader, en version femme, parce que là, on était dans un domaine encore plus difficile que la taille enfant. Et il a beaucoup plu aussi, donc j'ai continué. Et petit à petit, en fait, ça s'est fait comme ça. J'ai ouvert ma page Patreon, qui est une page, c'est une plateforme qui permet de soutenir les créateurs. Donc, il y a de tout. Il y a des designers tricot, mais il y a des musiciens, il y a des artistes peintres, des illustrateurs. Et en fait, des podcasteurs aussi, bien évidemment, des marques de laine, voilà. Et en fait, c'est une plateforme qui permet, sous forme de mécénat, les gens s'abonnent, ont du contenu exclusif et permettent aux créateurs, en fait, de pérenniser son activité. Et donc, j'ai lancé ma page. Moi qui faisais beaucoup de podcasts sur YouTube, j'ai lancé ma page et j'ai créé une jolie communauté qui est toujours bien active aujourd'hui. Et j'adore en fait partager avec mes abonnés. Et puis voilà, et puis petit à petit, ça s'est enchaîné. Ensuite, j'ai été en contact avec Erol et j'ai écrit mon premier livre avec eux qui a cartonné. J'ai continué à sortir des patrons. Ensuite, j'ai travaillé sur mon deuxième. Et puis, enfin voilà, ça s'est vraiment fait. J'ai commencé comme entrepreneur et en 2020, on est passé sous un statut de société. Parce qu'au début, j'avais aucune attente en fait. Voilà, je m'étais déclarée bien évidemment au gouvernement anglais parce que je touchais un petit peu d'argent, mais voilà, je payais pas de taxes ni rien. Et puis petit à petit, je me suis dit mince, il faut peut-être que j'étudie un peu plus mon statut. Est-ce que j'ai le bon statut, ce genre de choses. Et je me suis pris au jeu en fait de développer ce qui est aujourd'hui mon entreprise et dans lequel je mets beaucoup de cœur à l'ouvrage, j'y travaille énormément. Quand on est entrepreneur comme ça et que c'est notre bébé, on a même du mal à lâcher parce qu'en fait, avec son entreprise tous les jours et voilà. Mais à la base, et toutes les nuits, mais à la base, quand on me demande est-ce que tu avais un business plan, bah non, j'avais rien de tout ça parce qu'en fait, j'avais même pas prévu de me lancer du tout. Moi, j'avais prévu d'avoir mon équivalence anglaise et puis d'aller chercher un travail comme orthophoniste ici, quoi. C'était pas du tout prévu que je me lance comme entrepreneur. Même si au final, c'est toujours ce que j'ai voulu au fond, étant plus jeune, mais je ne savais pas forcément dans quoi. Et puis, le tricot s'est tellement imposé à moi qu'en fait, il n'y a même pas eu de... Je ne me suis même pas posé la question. Je me suis lancée là-dedans. Et aujourd'hui, on y est. Donc, on est à quoi 5 ans après, à peu près ça doit faire 5 ans. 5 ans depuis la sortie de mon premier patron, quoi.
C'est une super histoire parce qu'effectivement, à la fois, tu l'as voulu, tu as travaillé très fort pour toute cette aventure-là. Et en même temps, ça s'est construit avec le temps, tu vois, sans effectivement, comme tu dis, business plan, plan de carrière, etc.
C'est ça.
Voilà, vraiment réfléchi.
Je sais que certaines de mes, je vais dire, collègues, entre guillemets, parce que dans collègues, on a tout, quoi. On a les loisirs, c'est collègues des loisirs créatifs. Donc, que ce soit des marques de laine, que ce soit des créatrices de tissus, créatrices de patrons. Enfin, voilà. On a toutes des histoires un petit peu différentes, mais je sais qu'il y en a pas mal qui ont pris le risque de quitter leur travail pour se lancer dans l'entreprise. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose, entre guillemets, je suis preneuse de risque jusqu'à un certain point, mais je ne suis pas certaine si j'avais toujours été au Canada en tant qu'orthophoniste avec mon job posé dans mon école, je ne pense pas que j'aurais pris le risque de me lancer, en fait. Alors que là, enfin voilà, de quitter mon job pour me lancer. Ouais, ouais. Honnêtement, hein, je pense pas que je l'aurais fait. Et en fait, le fait d'être rentrée en Europe, du coup, d'être dans la communauté européenne, d'avoir, voilà, parce que le plus gros de ma communauté qui suivait mon blog était en Europe, hein, était en France, en Belgique, en Suisse, plus qu'au Canada. Et du coup, le fait de retrouver ma communauté, d'avoir des gens qui me poussent, d'être dans une situation où de toute façon, je ne travaillais pas. J'étais voilà, maman au foyer, entre guillemets. Donc, j'avais rien à perdre, entre guillemets, d'essayer. Alors que si j'avais dû quitter mon travail, etc., là, on aurait été dans un autre scénario et je ne sais pas si j'aurais pris ce risque-là. Je ne sais même pas si ça me serait venu à l'idée, en fait, de me lancer dans des patrons. On ne saura jamais, mais...
Mais souvent, ça vient avec le temps et ça se fait en parallèle. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes... Ouais. Qui effectivement font les deux en parallèle, donc ce qu'on appelle un side project, enfin ce qu'on appelle en français, en très mauvais français, side project. Mais effectivement, oui, dans l'idée de se dire, je construis finalement, au départ sans m'en rendre compte, quelque chose à côté qui potentiellement va prendre le relais sur l'activité principale initiale. Et ce qui est un peu quelque part le rêve, j'en sais rien. En tout cas, une situation peut-être idéale ou un bon compromis pour se lancer, pour oser se lancer. Parce que comme tu le dis, c'est quand même super compliqué et risqué. Enfin, en fonction de ta situation familiale, évidemment. Mais c'est quand même assez risqué de se dire, je lâche un CDI ou par exemple, un boulot de fonctionnaire aussi. Hein. Il y a énormément de profs qui écoutent le podcast et... forcément, c'est difficile de se dire je passe d'un statut à un autre comme ça, d'un claquement de doigts. Donc, je pense que le fait de faire les deux choses en même temps, ça fonctionne, mais ça veut dire beaucoup de travail.
C'est ça, beaucoup d'investissement, beaucoup de travail. Et c'est vrai que moi, j'aurais pas pu, comme j'avais en plus une petite fille, j'aurais pas pu. Déjà là, c'était beaucoup d'organisation. Je travaillais pendant ses siestes, en fait, à ce moment-là. Dès qu'elle avait sieste du matin, sieste de l'après-midi. Puis alors après, quand elle a fait plus que la sieste de l'après-midi, je travaillais le soir. Donc voilà, ça a été beaucoup d'investissement perso. Ah. Mais oui, c'est un risque que je n'ai pas eu à prendre de quitter mon travail, et ça c'est une chance entre guillemets, parce que voilà, la situation a fait que c'était comme ça, en fait, tout simplement.
Oui, voilà, ouais, c'est ça, voilà. et effectivement, je pense aussi qu'il y a des périodes dans la vie où c'est plus facile que d'autres, et qu'il faut peut-être pas non plus se mettre dans des situations difficiles, un peu de burn-out de tout, finalement, à la fois maternelle et tout ça, si c'est potentiellement, c'est juste pas le moment, et il faut construire, enfin ça n'empêche pas de construire peut-être une petite communauté, etc., le temps que les choses se mettent davantage en place et que le planning soit plus facile. Mais c'est oui, sûr voilà. qu'avec des enfants en bas âge...
Bah, c'est compliqué. Hein. Là, je l'ai vu pour quand ma deuxième est née. Elle aura 2 ans samedi, le 28. Je n'ai pas pris de congé de maternité. C'est-à-dire que pour Alice, j'avais eu 1 an de congé maternité payé. Parce que voilà, c'est comme ça, c'est ce qu'on cotise au Canada. Et en Angleterre, c'est pareil. On cotise pour 1 an de congé maternité. Donc, j'avais cette chance-là de pouvoir bien profiter de ma fille. Là, évidemment, auto-entrepreneur, pardon, je n'avais rien, surtout qu'en plus on venait enfin ça faisait pas très longtemps qu'on était en Angleterre, ça faisait 3 ans en fait, mais j'ai le droit en tant qu'européenne, etc., j'ai le droit à aucune aide, donc j'ai pas eu de, j'aurais pu avoir un congé de maternité, mais il aurait fallu que je mette toutes mes ventes en stop, en fait. C'est ça l'histoire. Mais pour moi, c'est pas possible. C'est-à-dire que je peux pas mettre un patron en vente et dire, bon, bah, pendant 9 mois, on vous pouvait pas l'acheter. Enfin, niveau visibilité de marque, c'était impensable, en fait. Donc, je me suis dit, je préfère continuer à travailler, et en espérant que ça fasse la même chose ou plus que le petit congé de maternité que nous offre le gouvernement. Mais en tout cas, niveau visibilité, je ne peux pas mettre mes ventes en arrêt. Ça serait tuer mon entreprise. Donc, du coup, j'ai pris 1 mois le temps de me remettre, parce que physiquement, ça avait été très, très difficile. Donc, j'ai pris 1 mois le temps de me remettre. Et puis après, je m'y suis remise directement, tout en intégrant mon nouveau rythme avec mon nouveau bébé et la vie à 4, etc. C'est, petit à petit, ça reprend son rythme. Évidemment, j'avais diminué. J'avais prévenu mes patrons que il y aurait peut-être un petit peu moins de patrons pendant les premiers mois, mais c'est que ce soit mes clients en général ou ma communauté Patreon, tout le monde est très compréhensif, très bienveillant, et c'est les premières à toujours me dire, mais Anna, fais une pause, prends du temps pour toi. Donc voilà.
C'est l'avantage peut-être aussi d'avoir une communauté féminine, c'est que forcément c'est la maternité,
tout le monde connaît, tout le monde ne connaît pas, mais
pas forcément toujours dans les détails, évidemment, mais en tout cas, c'est quelque chose dans lequel on se projette très facilement en tant que femme.
C'est ça. C'est-à-dire que même si on n'est pas maman soi-même ou on ne veut pas le devenir ou on ne peut pas, on voit dans notre entourage que, en tout cas, les premiers mois, c'est pas forcément des moments faciles, c'est des moments fatigants, c'est beau, mais c'est des moments qui demandent beaucoup d'énergie et du coup, je pense que les femmes sont relativement compréhensives. Il y a des hommes aussi qui le sont, mais je pense que des fois, ils se rendent moins compte de tout ce qu'on fait pendant cette période-là.
Ouais, c'est certain. Bon, donc du coup, voilà, tout ça s'est construit avec le temps. Finalement, tu as appris à créer des patrons en te basant sur tes recherches de livres sur Internet, etc. Mais tu n'as pas pris de cours particuliers sur cette...
J'ai fait une formation de comment on appelle ça, de gradation. Il y a beaucoup de formations qui existent sur Internet, c'est toujours des formations anglaises, mais j'ai fait une petite formation pour ça, et puis après, quand j'ai décidé vraiment d'être ce qu'on appelle size inclusive en anglais, donc vraiment inclusive en termes de taille, là on passe sur des gradations qui sont différentes, c'est comme en couture, les patrons de couture ou en modélisme en général, les grandes tailles ne sont pas gradées de la même façon que les petites tailles pour que justement ça aille à tout le monde, et là je suis allée pour cette raison et par manque de temps, j'ai délégué. J'ai pris une tech edit, une éditrice technique qui est formée, qui relisait déjà tous mes patrons, qui vérifiait déjà tous mes calculs. Et aujourd'hui et déjà depuis 2 ans, c'est elle qui grade tous mes patrons de façon à ce que tous les patrons femmes puissent aller jusqu'aux environ 160 cm de tour de poitrine. Et puis aussi pour m'aider au niveau temps, parce que en fait, j'ai plusieurs personnes qui m'aident autour de moi, mais le gros du travail, c'est quand même moi qui le gère encore toute seule aujourd'hui. Et j'ai besoin d'aide, donc j'essaye au maximum de déléguer aux gens qui travaillent avec moi. Donc j'ai gradé tous mes patrons jusqu'à il y a environ 2 ans. Et aujourd'hui, j'en ai gradé certains quand ma tech edit était en congé de maternité l'année dernière. Sinon, aujourd'hui, c'est elle qui fait cette partie-là.
Oui, d'accord. OK. Et alors, quelles sont les personnes justement avec lesquelles tu travailles ? Comment tu t'es entourée ?
Oui, alors donc il y a plusieurs personnes qui gravitent autour de moi. Alors déjà l'un très important, c'est Harry, mon nouveau mari, qui voilà, qui est qui est responsable de la plupart, enfin responsable entre guillemets, de la plupart des photos. C'est-à-dire que depuis le début, c'est toujours lui qui a pris les photos des patrons, etc. Donc les photos des, donc j'ai sorti deux livres, Tricoter le jacquard en rond et Tricoter en couleur. Et là, toutes les photos des patrons, des modèles, c'est lui qui les a prises. Les photos techniques où je suis en train de montrer un geste, c'est toujours moi. Mais voilà, toutes les photos de moi ou des filles avec les patrons, c'est toujours lui qui les a prises. Et ça, depuis le début du blog en 2013. Aujourd'hui, avec deux enfants, c'est un peu plus compliqué, hein, parce qu'avant, on pouvait aller se promener, on en profitait pour faire des photos. Depuis la naissance de Suzanne, il y a deux ans, c'est vraiment compliqué parce qu'en fait, Alice, elle est grande, elle se met à cueillir des fleurs pendant que papa prend deux, trois photos de maman. Suzanne, tout ce qu'elle veut, c'est être dans les bras. Donc, c'est, en fait, c'est devenu quasiment impossible aujourd'hui de faire des photos avec Harry si les filles sont là, voilà, donc j'en ai pris beaucoup toute seule récemment dans ma boutique, etc. Mais il a toujours été là, il est d'un soutien incroyable. Je pense qu'on en parlera un petit peu après, mais l'année dernière j'ai développé l'entreprise avec une marque de laine. Quand les laines sont arrivées à la maison et qu'on s'est retrouvés avec des centaines de kilos dans le salon, il n'a rien dit. Alors que franchement, ma mère se moquait de nous et lui, il n'a rien dit parce qu'il est vraiment tellement... comment on dit en anglais, on dit supportive,
oui, plein de. Je pensais au même mot, mais oui,
voilà,
mais
j'arrive, oui. Pas, j'arrive jamais à trouver le.
Force de soutien, ouais, c'est voilà, c'est ça. Très bien en français, mais bon, ouais, il te supporte. Enfin, il te supporte, c'est pas.
Il me supporte justement, aussi. Il me supporte aussi, mais.
Il mais t'apporte surtout, il son soutien.
Exactement, et je sais que, enfin, il me l'a dit lors de notre mariage le mois dernier, mais il me l'a encore dit qu'il est fier de, bah, de ce que j'ai réussi à développer toute seule en ayant deux enfants et ouais. Puis la maison et lui, etc. Donc lui, ouais. Il est très important. Il est là officiellement. Il a aussi des parts dans mon entreprise, mais il est là officiellement, officieusement aussi. Mm-hmm. Après, donc je travaille avec Élise qui est mon éditrice technique donc depuis déjà plus de deux ans parce qu'elle faisait aussi ma tech edit. Donc c'est elle qui relie tous les patrons, c'est elle qui grade aujourd'hui tous les patrons. Donc on va parler d'un modèle, je vais lui dire ce que je veux, je vais étudier les points, on va faire les essais, je vais lui dire la forme, etc. On va travailler sur mon prototype et une fois qu'il est validé, elle va le grader, donc elle va l'écrire, elle va le calculer dans toutes les tailles de la gamme. Donc voilà, ensuite elle relie tous mes patrons, etc. Elle fait les diagrammes au besoin, enfin elle fait vraiment tous les trucs techniques. Ensuite, je travaille avec Sarah qui est alors en anglais on appelle ça une virtual assistant, donc assistante virtuelle, mais elle n'est pas virtuelle parce qu'elle est très réelle. Hein. C'est une personne qui existe parce que des fois je dis ça, c'est mon assistante virtuelle et les gens me disent ok, c'est un robot. Non, c'est vraiment. Donc c'est juste qu'elle est à distance en fait, ouais. elle habite à Liverpool, donc elle habite à Liverpool, mais elle est anglaise, mais alors elle parle français mieux que moi, hein. elle est vraiment complètement bilingue, c'est assez incroyable, et en fait Sarah, elle va faire tout le service client. Donc, ça fait environ un an qu'elle travaille à Hello by Anna et elle fait tout le service client. Donc, c'est-à-dire qu'elle répond à toutes les questions des clients sur le tricot. En général, on a beaucoup de questions très techniques. Donc, on a vraiment besoin de quelqu'un qui s'y connaisse en tricot et en français et en anglais parce qu'on reçoit beaucoup de questions des deux langues. Donc, elle fait tout ça. S'il y a des problèmes avec les commandes, etc., elle va faire ça aussi. Et puis, elle va beaucoup m'aider à faire de la recherche de produits. Donc, par exemple, quand on développe des nouveaux produits, des accessoires, même les couleurs de laine, etc., c'est elle qui va m'aider à faire toutes les recherches, en fait, en amont. Donc, mettons, j'ai envie de lancer un marqueur. Elle va chercher les fournisseurs, merci, j'allais dire les suppliers. Elle va chercher les fournisseurs, elle va me faire les devis, elle va me sortir les devis, on va comparer, etc. Elle va me donner des idées pour des nouveaux produits qu'on pourrait sortir. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'échanges, en fait, avec Sarah. Donc voilà. Ensuite, il y a Charline, qui est illustratrice, qui travaille, pareil, pour Hello by Anna depuis un an, à peu près, et elle fait tous les dessins techniques. des patrons. Donc à chaque fois sur le patron, il y a comme un dessin technique avec les dimensions, etc. C'est elle qui dessine tout ça. Et elle dessine aussi tous les accessoires, tous les goodies pour Relonger avec Anna. Donc par exemple, à chaque fois qu'on sort des petits marqueurs, on va discuter ensemble du marqueur, du pins, et c'est elle qui va dessiner ça. Donc, à chaque fois, c'est des freelances. Et puis, la dernière qui nous a rejoint, c'est Perrine. C'est une de mes amies, en fait, du Canada, qui est rédactrice web. Donc, Perrine, elle est en charge de pas mal d'articles au niveau du blog. Voilà. Donc, elle va chercher, on va discuter de différents thèmes. Et avant, c'est moi qui écrivais absolument tous les articles. Et aujourd'hui, on se sépare ça, en fait. Et Perrine écrit beaucoup des articles pour le blog pour essayer de toujours, donner des conseils, des tutoriels ou des articles sur différents thèmes. Donc, si c'est pas moi, si c'est pas Sarah, c'est Perrine qui va rédiger des articles pour faire vivre le blog un petit peu sur notre site. Donc, voilà. D'accord. Et puis après, je travaille aussi avec des traductrices qui vont traduire tous les patrons. J'ai une traductrice par langue avec qui je travaille tout le temps. Mais ça, c'est plus occasionnel. C'est quand on a besoin de faire traduire le patron. Donc, voilà la petite équipe. Après, c'est vrai
une belle équipe, hein.
Ouais, moi, le seul souci, entre guillemets, c'est qu'on est tous à distance et que la prochaine étape, ça sera de recruter quelqu'un à Exeter. Donc là où j'habite, là où j'ai ma petite boutique depuis quelques mois pour m'aider au niveau physique, en fait, tenir la boutique avec moi, emballage de commandes, tout ce genre de choses, ça sera la prochaine étape.
Oui, parce que là, du coup, donc comme tu disais, c'est que des freelances, donc tu ne salaries personne.
Non, 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 je suis la seule salariée de mon entreprise.
Et par contre, effectivement, toute la préparation de commandes, c'est aujourd'hui toi qui la gères.
Oui, c'est moi qui gère tout. Ouais, donc c'est beaucoup.
Oui, c'est beaucoup, et puis c'est pas forcément. Enfin, j'imagine que c'est la partie qui est sans doute sympa au départ, de prendre soin des commandes pour envoyer aux clientes avec beaucoup de soin, beaucoup d'attention, etc. Mais il y a un moment donné, c'est pas là où va être ta plus grosse valeur ajoutée.
Non, c'est ça, exactement. Alors après, c'est vrai que c'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai ouvert aux revendeurs. Donc en gros, pour revenir un petit peu et expliquer, donc Longue avec Anna, c'était que des patrons de tricot et des livres, donc qui ont été publiés chez Erol, dans la partie loisirs créatifs. Et puis en 2020, j'ai eu ce gros moment de ça fait 3 ans, j'ai envie de développer mon entreprise, mais je ne sais pas trop comment, je ne sais pas où aller, j'ai plein d'idées, mais j'ai besoin d'aide. Je me suis fait aider, j'ai fait une formation en communication avec une agence à Paris qui était très chouette, qui m'a appris beaucoup, qui m'a appris à penser un peu comme une chef d'entreprise et pas juste comme une créatrice. Et ça, c'est quelque chose que j'avais beaucoup et que j'ai encore un peu de mal à faire. De comprendre où est-ce qu'on a envie d'aller avec son entreprise, quels sont les produits qui fonctionnent, quels sont les produits qui ne fonctionnent pas et pourquoi. Tout ce genre de choses, entre nous, j'y avais jamais vraiment réfléchi parce que j'étais pas du tout dans l'objectif que je monte une entreprise, en fait. J'étais dans l'objectif, je crée. De début mi-2020, en même temps que le Covid, vraiment, je me suis dit, non, là, j'ai envie d'autre chose, mais j'ai envie d'explorer plus de pistes. Et du coup, elles m'ont beaucoup aidée à me poser, à vraiment me forcer à prendre le temps de me poser, à noter toutes mes envies et à concrétiser certaines envies que j'avais depuis longtemps. Donc, par exemple, sortir une gamme de laine, c'était quelque chose que j'avais sur ma liste depuis le début, comme le rêve un peu inaccessible. J'avais déjà fait mes recherches pour savoir quel genre de laine je voulais, quelle filature, dans quel endroit, est-ce que je voulais du local, du certifié, les deux si possible, ou pas. Enfin voilà, j'avais déjà en fait fait beaucoup de recherches, mais tout ça c'était dans un petit dossier à part et j'en avais pas parlé à grand monde et je m'étais dit oui, peut-être un jour quoi. Et en fait 2020 ça a été un petit peu le coup de pied aux fesses de me dire mais en fait pourquoi je reste à attendre alors que j'ai ce rêve et que j'ai la capacité entre guillemets, ça vaut le coup que cette fois-ci je prenne le risque de le faire. Ça a pris aucun risque depuis le début, donc là il est temps de prendre un risque si tu veux te développer. Et encore une fois, la question de la laine, c'est quelque chose que tout le monde me demandait depuis quasiment le début, parce que les gens aiment bien avoir la laine qui va avec le patron. Oui, donc à chaque fois, je renvoyais aux autres entreprises avec qui je travaillais, parce qu'on se mettait beaucoup en avant les uns les autres, etc. Mais il y en a qui me disaient, oh oui, mais moi j'aimerais bien, j'ai pas envie des Américains, j'ai pas envie de commander en France, comment je fais pour commander ta laine, est-ce que tu vas sortir ta laine? Enfin, c'était tout le temps une question qui revenait. Et voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, OK, il est temps que je me lance. Donc là, j'ai contacté, comme je dis, j'avais déjà fait mes recherches, donc j'ai contacté les filatures, etc., que j'avais notées. J'ai regardé ce qui était possible, quel genre de laine je voulais développer, les couleurs, etc., le budget aussi qu'il fallait allouer pour reprendre ce risque. Et puis, je me suis lancée. Par contre, le seul point négatif à l'horizon, c'était le fait que je sois en Angleterre avec une communauté majoritairement européenne. Et ça, même aujourd'hui, c'est encore un peu compliqué par moment.
Et ça s'est complexifié avec le Brexit, j'imagine.
C'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'avant le Brexit, c'était pas grave. Les frais de port étaient un petit peu plus chers, mais c'était pas trop grave, quoi. Je vendais quand même beaucoup de mes livres sur mon site vers la France, vers la Belgique, la Suisse. Il y avait pas de problème, entre guillemets. Les gens acceptaient de payer un tout petit peu plus cher de frais de port. Ce qui, entre nous, n'était pas énorme non plus, parce qu'en fait, de France à France, ça coûte plus cher des fois d'envoyer que d'Angleterre à la France. C'est assez dingue, hein.
Oui, c'est assez dingue.
Mais il y a 2 ans, la sortie de Tricoter le Jacquard en rond, j'avais préparé plein de livres en France qui étaient arrivés chez mes parents. Je les avais signés, etc., pour les envoyer à mes clientes. Mais j'avais chargé le prix de la poste anglaise parce que sur le site c'était organisé comme ça. Et puis je suis allée en Bretagne à mon bureau de poste avec tous mes colis, et là j'ai demandé les prix, et en fait ça me revenait à environ 1,50 € de plus d'envoyer de la Bretagne à Lyon par rapport à l'Angleterre à Strasbourg, quoi. Donc je suis repartie en Angleterre avec mes livres.
Ah ouais.
Et je les ai... parce que j'y perdais trop, même par exemple, d'envoyer du Canada, ça me coûtait environ 10 euros de faire Angleterre-Canada, mais ça me coûtait 18 euros pour la même chose, de faire France-Canada. Là, j'ai dit, non, c'est pas possible, moi, je vais y perdre trop financièrement. Donc, comme j'étais en voiture, je suis retournée avec mes livres et je les ai postés d'Angleterre. Si ça, c'est pas dingue. Bref.
Ouais, c'est dingue. Ouais.
En fonction de ce qu'on envoie, plus c'est gros, plus ça coûte cher, mais le tarif n'était vraiment pas, était très similaire. Là, le souci qui s'est posé, c'est le Brexit et ce risque cette peur des gens par rapport à la TVA, aux frais de douane, etc. Ça a été un moment, quand j'ai sorti la laine là en novembre, ça a été un moment très compliqué, en fait, ou même quand j'ai sorti mon nouveau livre en septembre l'année dernière, ça a été un moment très compliqué de trouver la meilleure solution, parce que, en gros, depuis le Brexit, je n'ai plus le droit de charger la TVA européenne à mes clients sur mon site. C'est interdit parce que je ne suis pas enregistrée au programme, et le programme est financièrement complètement inaccessible pour des petites entreprises comme la mienne. Donc c'est-à-dire que quand le client commandait sur mon site internet, il devait payer la TVA à la réception. Ce qui en soi n'est pas grave, parce que de toute façon, la TVA, il faut la payer, que ce soit sur le site ou quoi. Mais souvent, il y avait des frais de poste en plus. Donc, la poste demandait genre 8 euros de frais pour juste demander la TVA au client. Donc, ça faisait des montants trop élevés. Et c'est pour ça que la meilleure solution, ça a été Etsy, qui est une plateforme externe qui charge la TVA au client directement. Ils achètent la laine, ils payent la TVA à Etsy, et moi je leur envoie, et comme ça a été acheté via Etsy, le client n'a aucun frais à la réception, la TVA est déjà payée. Mais ça a été compliqué de trouver le bon système, et je me suis arraché les cheveux. Au début ça marchait pas super bien, ça a été des moments quand on parle de grosses difficultés en tant qu'entrepreneur qu'on trouve insurmontables, ça a été ça. Là. De septembre à novembre, là, ça a été vraiment les coups de blues sur coups de blues à cause de ce genre de trucs complètement externes et de tout ce que le Brexit, malheureusement, amène au small business. Et les gens, ils n'ont pas pensé à ça quand ils ont voté. Mais ben, voilà, ça nous retombe toujours dessus, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc, du coup, finalement, ça s'est réglé. Aujourd'hui, je fais beaucoup de ventes sur Etsy pour l'Europe. Donc, il n'y a pas de problème. Mais rapidement, j'en ai discuté avec un de mes revendeurs aujourd'hui, français, avec qui je m'entends très bien et qui m'a en fait convaincue de passer par la voie des revendeurs pour plusieurs raisons. Pour la raison accessibilité pour le client, parce que voilà, le client aura plus tendance à commander dans son pays qu'à l'étranger. Oui. En tout cas, certains, ceux qui ont peur de commander à l'étranger. Frais de port, parce que les frais de port peuvent être un tout petit peu moins chers, pas beaucoup, mais si la boutique a des offres, par exemple frais de port au-dessus de 70 euros, bah forcément, ça, moi, c'est des offres que je ne peux pas malheureusement offrir à l'Europe. Et puis aussi bah le côté me décharger en fait de ces emballages de commandes que sinon je ne ferais que ça toute la journée et c'est pas envisageable. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir aux revendeurs et puis finalement ça a été une très bonne chose parce que j'ai eu beaucoup de demandes et là les revendeurs on a ouvert aux deux premiers au mois de décembre de façon exclusive entre guillemets par situation et puis tous les autres sont arrivés au mois de mars et aujourd'hui on a déjà 15 revendeurs donc dans le monde. Donc c'est et puis on a plus constamment des demandes donc on est obligé d'y aller petit à petit pour pas se retrouver avec trop d'un coup et après c'est toute la logistique à gérer mais voilà le fait de prendre des revendeurs effectivement ça m'a libéré beaucoup de temps au niveau des commandes parce qu'il y a plein de commandes qui passent par les revendeurs donc ça c'est des choses que moi j'ai pas à faire et qui me libèrent du temps.
Oui, parce que même si tu vends unitairement moins cher, enfin j'imagine hein.
Oui, forcément. Oui, la marge est beaucoup plus grosse voilà. Si c'est moi qui ai la vente, ça c'est sûr.
Voilà. Donc même si finalement tu vends moins cher, tu as quand même à la fois protégé quelque part ton temps.
Oui.
Voilà, ça t'a libéré du temps pour faire d'autres choses. Et donc l'idée aussi des revendeurs, c'est d'avoir un des volumes plus importants, d'avoir
aussi,
une audience, une cible, une clientèle plus importante que si tu devais adresser toi-même tous ces gens-là.
C'est ça, exactement. Et puis après, bah, c'est vrai qu'il y a aussi le côté service après-vente que du coup, je ne sais pas. Et mettons, je ne sais pas, quelqu'un n'est pas content de la couleur ou j'en sais rien, ou s'est trompé en achetant la couleur. C'est plus facile pour lui de ramener dans son pays et de voir avec les termes et conditions de cette boutique-là plutôt que moi, ça me revienne en Angleterre. Enfin bon, si ça vient des États-Unis, par exemple, c'est compliqué, quoi. Donc là, voilà, on a trois revendeurs aux États-Unis et comme ça, ils gèrent les clients américains et au besoin les clients américains savent très bien de toute façon la plupart des clients savent que la marge la plus importante revient à l'entreprise quand on lui achète directement donc ceux qui veulent vraiment entre guillemets soutenir Longue avec Anna en tout cas, à qui ça ne dérange pas de payer des frais de port un peu plus élevés, ils vont quand même commander. Je continue quand même à vendre aux États-Unis, au Canada,
En direct.
Voilà, c'est parce qu'il y a des gens qui se disent bon, bah, je vais mettre un peu plus dans les frais de port, mais je sais que l'entreprise touchera la marge, entre guillemets. Et puis en même temps, d'autres passent par les revendeurs, ce qui est génial, parce que nous, on essaye aussi beaucoup de mettre en avant les revendeurs, parce que c'est une chance énorme de. Qu'autant de personnes nous aient fait confiance dès le début. Voilà, la plupart des revendeurs, ils avaient commandé la laine sans même l'avoir vue en vrai encore. Enfin, voilà, juste parce qu'ils nous faisaient confiance, parce que le produit qu'on proposait, c'était un produit différent, que c'était un beau produit, un produit éthique, et ça leur plaisait, c'est ça qu'ils voulaient mettre en avant. Donc nous, on essaye aussi énormément de les mettre, de les mettre en avant, de soutenir les petites boutiques. Donc voilà. Et puis en janvier, j'ai ce qui a libéré mon nouveau mari. En janvier, j'ai ouvert une boutique à Exeter, donc dans ma ville. Ce qui fait que la laine qui était auparavant dans notre salon a pu être déplacée vers la boutique, ce qui nous a libérés à la maison et il me l'a pas dit, mais je pense que ça a libéré mon conjoint aussi de se dire cool, on ne vit plus dans la laine.
Ok. Et aujourd'hui, tes ventes, elles se répartissent comment entre pays ? Par exemple, en France, ça fait quel pourcentage de ton activité en France ?
C'est dur à dire. Il y a quand même une bonne... Ouais, je ne saurais pas dire parce qu'en fait, il y a la partie patron et la partie laine. Mais la partie laine, comme on l'a commencé qu'en novembre, on est encore. Ça fait que 6 mois en fait, donc on n'a pas encore un. Ce qu'on disait, c'est qu'il nous faudrait un an pour vraiment avoir un recul. Mais c'est assez partagé. C'est-à-dire que pendant très longtemps, la France prenait environ 80%. Enfin, la France, la Belgique et la Suisse. Hein, l'Europe francophone prenait environ 80% du marché de l'Ongavecana, en tout cas au niveau des patrons. Et petit à petit, en fait, si c'est vraiment diminué, non pas que la France a diminué, mais disons que les autres ont aussi pris de la place. Donc, on vend, par exemple, beaucoup aux États-Unis et au Canada. Je vends plus aux États-Unis et au Canada que je vends en Angleterre, par exemple. Et ça, que ce soit la laine ou… Enfin, alors, aujourd'hui, la laine, c'est différent parce que les envois sont tellement rapides en Angleterre et puis les frais de port sont pas très chers et puis sont offerts à partir d'un certain prix. Mais pendant un moment, en fait, les États-Unis, j'ai beaucoup, beaucoup de ventes aux États-Unis, que ce soit au patron ou en laine, c'est assez marrant. C'est assez marrant. Alors que le marché anglais est beaucoup plus dur à percer. J'ai plus de mal à avoir de la visibilité en Angleterre que je n'en ai en Amérique du Nord. Ou en Europe, bien évidemment. Donc, c'est bizarre. Donc, c'est mon objectif, là, des prochaines années, d'essayer de, comme je suis ici, en fait, de faire connaître la marque, de faire connaître la marque aux Anglais, enfin, en tout cas, au Royaume-Uni. Qui comprend bien sûr les Irlandais, les Écossais, les Gallois, mais voilà. Donc par exemple faire des festivals au mois de septembre, je vais faire mon premier festival à environ 2 heures de Londres là dans le sud. Je vais faire mon premier festival pour présenter les patrons, la laine, etc. Puis c'est ce genre de petites choses qui va doucement augmenter la visibilité, parce que pour moi c'est plus difficile de faire des salons encore une fois depuis le Brexit. Je me suis renseignée pour des salons en France, enfin, du moins en Union européenne, et c'est compliqué en fait. C'est aussi des démarches et des frais assez fous. Donc pour l'instant, c'est pour ça que les revendeurs, encore une fois, semblaient la meilleure solution.
Ouais, d'accord. Des salons comme par exemple le CSF ?
Oui, voilà, ce genre de choses. Ou des salons plus petits que le CSF. Le CSF, c'est quand même un sacré budget, visiblement. Ouais. Mais voilà, des salons plus petits. Mais même là, quand j'en ai parlé à mon comptable, il avait l'air de me dire, honnêtement, je sais pas si ça vaut la peine. Vaut mieux soutenir vos revendeurs que d'y aller vous-même, entre guillemets, juste à cause des frais, des déclarations, des... Oh là 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 là, c'est... Puis alors moi, c'est vrai que c'est un domaine, heureusement que mon comptable est là, parce que ça ne me parle pas trop, donc j'essaie toujours de comprendre énormément ce qu'il m'explique, parce que je trouve ça très important, donc je suis très investie, mais à un moment, les trucs de Brexit, c'est comme personne ne sait vraiment où est-ce qu'on va à long terme, tout est un peu flou, c'est jamais très simple.
Bon, et alors si on revient un peu aussi à la base de ce que toi tu aimes faire, quel est le projet que tu as adoré tricoter ?
Ah, le projet que j'ai adoré tricoter. Alors moi j'adore tricoter les pulls et les gilets. Je suis fan de ça. Je ne suis pas vraiment une tricoteuse de chaussettes. Il y en a plein. J'aime bien tricoter tous mes projets. Je dirais que celui qui a été très spécial, c'est le mois dernier, même un peu plus que ça, en février-mars, j'ai tricoté un gilet pour mon mariage avec deux fils de mohair de ma base Silk Mohair. Et c'était le gilet rosa qui est un de mes patrons que j'ai sorti il y a peut-être 3 ans maintenant, que j'ai adapté, qui est un des patrons les plus best-sellers de la bibliothèque de patrons, et que j'ai légèrement adapté parce que c'est un nouvel échantillon, j'ai changé l'encolure, j'ai changé les manches, enfin voilà, pour aller avec ma robe de mariée en fait. Donc je dirais que celui-là, il a été assez spécial parce que du coup, je l'ai tricoté en me disant on se marie en avril en Angleterre, il va pas faire beau, donc faut que j'ai chaud. Et puis du coup, il a fallu que j'essaye ma robe de mariée assez régulièrement, parce qu'en fait il fallait que je regarde au niveau de la longueur pour qu'il tombe parfaitement avec la robe. Enfin, ça a été un moment assez spécial. Au final, il a fait tellement beau que je l'ai mis qu'à partir de 19h, mais mais je l'ai quand même mis le soir. Donc et alors moi j'aime tricoter du jersey en rond. Parce que j'adore la dentelle, j'en tricote beaucoup, j'adore le jacquard, mais j'aime bien le jersey en rond parce que c'est là que mon esprit se repose, en fait. Je trouve ça très, très méditatif. Et du coup, je tricote, je peux discuter. Voilà, du jersey, de kilomètres de jersey, c'est ce qui me plaît.
D'accord. Alors, moi, je tricote pas, donc j'ai aucune idée de ce que c'est que de tricoter du jersey en rond. Tu me parles chinois.
Ben, c'est juste des kilomètres de mailles en droit, en fait. Voilà, d'accord. de la maille en droit. Et on n'a plus besoin de regarder son tricot. On tricote assez vite. Et parce que c'est un rythme, en fait, toujours pareil, ça, je sais pas, moi, je trouve que ça libère l'esprit un petit peu.
Oui, mais il faut quand même que tu en fasses quelque chose de ces kilomètres de
Ah oui, ah bah bien sûr, ouais, bien sûr. J'en fais un pull, j'en fais un gilet, voilà. Mais avec pas trop de motifs dessus, juste ce qu'il faut.
Oui, d'accord, ok. Voilà. Quelque chose, oui, qui du coup, c'est plus dans le geste finalement que dans la technique.
Voilà, exactement. Mmh. Moi, je suis une tricoteuse des deux. Je suis une tricoteuse du geste et du produit fini. Par contre, je reste vraiment... en fait, j'ai tendance à créer ce que j'ai envie de tricoter. Et c'est vrai que des fois, je vois des patrons ultra travaillés au niveau des torsades, etc. Et je trouve ça magnifique. Mais je sais que je vais avoir du mal à le tricoter parce que ça va être trop... ça va trop me demander mentalement, en fait, de regarder mon diagramme sans arrêt, etc. Ça va trop me demander. Et donc, j'ai pas tendance à créer ce genre de patron parce qu'en fait, c'est pas ce que j'aime tricoter. Et quand on fait quelque chose de créatif comme ça, souvent, on crée ce qu'on aime faire. Et en plus, je suis littéraire. Hein, je suis pas du tout une matheuse à la base. Donc, moi, les trucs trop compliqués à construire, ça ne me parle pas du tout. En fait, il faut que ça reste assez, assez simple dans les deux côtés, au niveau tricot et puis après à porter également.
Ah ouais, d'accord, ok. Et alors, est-ce que tu tricotes aussi pour tes filles? Parce que tout le problème des enfants, c'est qu'ils grandissent.
Ah, je sais. Alors, je tricotais beaucoup pour mes filles.
Pour Alice, pour ta grande?
Ouais, je tricotais beaucoup pour Alice jusqu'à ce qu'elle ait commencé. Là, elle a commencé à mettre du 6 ans, là, 6-8 ans, là. Enfin, elle est en 7 ans en commerce, mais les pulls tricotés, c'est bien du 6 ans. Là, j'avoue que ça commence à être dur. Parce qu'en fait, c'est pas l'équivalent d'une taille adulte, mais ça prend quand même beaucoup, beaucoup de temps. Donc, j'ai eu plus tendance à tricoter pour Suzanne dernièrement. Alice me réclame un pull arc-en-ciel depuis des semaines. Et ça ne me tente pas du tout. Oui. Alors, voilà, je suis en train de faire des chaussettes arc-en-ciel en espérant que ça la libère du pull. Mais c'est compliqué parce que depuis que je fais ça de manière professionnelle, j'ai du mal en fait parce que tous les projets, c'est des projets pour le travail, mais aussi c'est aussi des projets pour moi, c'est-à-dire que c'est ensuite des pulls que moi je vais porter. Et du coup, quand on me demande un truc, souvent c'est Alice qui me demande des trucs, des écharpes violettes, bon ça va assez vite, donc ça va, mais voilà, des pulls arc-en-ciel, des choses comme ça, je sais que c'est pas un truc où je vais en faire un patron derrière. C'est pas un truc où je vais pouvoir en faire un prototype que je vais pouvoir en même temps utiliser à la boutique. Et comme le tricot, c'est quand même quelque chose qui prend beaucoup de temps et d'énergie, j'ai un peu de mal, en fait, par rapport, par exemple, à la couture, où je me dis, les personnes qui créent des patrons, elles sont capables de coudre une collection de couture. Moi, j'aurais à peine même pas fait un pull, quoi, dans le temps. Mettons, en un mois de couture, on peut coudre quand même beaucoup de choses. En un mois de tricot, on est plus limité. Et du coup, ça, c'est vrai que depuis que je fais ça professionnellement, j'ai un peu plus de mal à jongler entre le tricot purement plaisir et le tricot plaisir, mais qui en même temps va me servir au travail.
Ouais, je comprends. Et le week-end, t'arrives à ne pas travailler et justement à avoir aussi des loisirs en plus de t'occuper de ta famille?
Mon loisir, c'est le tricot. Après, j'ai d'autres choses. Je fais beaucoup de yoga. Ça fait une dizaine d'années que je fais énormément de yoga. Donc ça, c'est un de mes plaisirs complètement à part. Un de nos autres plaisirs, c'est les voyages. Que ce soit mon conjoint ou moi, on adore voyager. On adore découvrir de nouveaux endroits, même si c'est pas très loin. Donc, ça a été plus compliqué ces deux dernières années, bien évidemment, avec le Covid. Mais du coup, sinon, le voyage, c'est vraiment quelque chose auquel on se retrouve beaucoup. Avant, il y avait beaucoup de concerts. J'ai toujours été une grande, grande fan de musique. Et jusqu'à ce qu'on soit... quand j'étais à Bruxelles et ensuite à Montréal, j'allais tout le temps à des concerts. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile aussi. Donc je dirais que le tricot fait quand même une très grande partie de ma vie. Pour moi, le tricot, la phase tricotée n'est pas du travail, en fait. Ce qui va être du travail, ça va être de travailler sur un patron, d'être présente pendant un test, de répondre aux emails, de faire des posts sur Instagram. Ça, c'est du travail. Et j'essaye le week-end de pas trop le faire, voire pas du tout. Pareil pour les vacances. Par contre, je ne pourrai jamais poser mon tricot. C'est même pendant les vacances, on est parti en vacances il y a 2 semaines, pendant 1 semaine au soleil, j'avais mon tricot avec moi. Et c'était des patrons que j'étais en train de créer. Mais pour moi, c'est pas le patron, parce que le prototype, il est là, il est déjà écrit, il est pré-rédigé, et j'ai juste à suivre les instructions et à tricoter. Et ça, pour moi, c'est pas du travail, en fait. C'est mon loisir. C'est mon besoin au quotidien. J'ai beaucoup de mal à ne pas tricoter du tout de la journée. Il y a quelque chose qui va me manquer si j'ai pas fait quelques rangs dans la journée ou dans la soirée. Parce que souvent, c'est le soir, quand même, que je tricote. Donc, voilà. Ça a vraiment pris une grosse place dans ma vie.
Ouais. Bon, c'est chouette, mais c'est vrai que quand on commence un petit peu, enfin, même pas quand on commence, mais on est vite un petit peu aussi accroché à son idée de « je vais vite finir mon travail pour faire mes loisirs créatifs ». Et là, je suis en train de coudre une blouse, ça fait pas longtemps que je commence les vêtements. Et j'ai un peu que ça en tête, je me dis « mais vite, il faut que je la finisse, etc. Et... » Bon, je suis en train de la finir, ça ressemble pas exactement à ce que je voulais. J'ai toujours un peu peur, un peu sur le tombé des choses, etc. Bon, je vais la finir, on verra.
Oui, c'est ça.
mais oui, on a un peu cette impatience aussi de s'y remettre et à reprendre les travaux en cours, quoi.
C'est ça. Et j'avais la même chose avec la couture, c'est-à-dire que avant la naissance d'Alice, par exemple, le samedi soir, mettons, on allait sortir, on était invité chez des amis ou quelque chose comme ça, et je m'étais mise en tête le matin. Souvent le samedi, c'était notre journée où on faisait un peu chacun ce qu'on voulait. Mon conjoint, il a découvert la pêche au Canada, donc du coup, il en profitait pour aller pêcher le samedi quand c'était la période. Et moi, c'était ma journée couture. C'était vraiment, le soir, on allait retrouver nos amis, le dimanche aussi, mais le samedi, c'était chacun sa journée de loisir. Et en fait, souvent, le samedi matin, j'allais commencer un projet, une robe, parce qu'à cette époque-là, je ne portais que des robes. Et le soir, il fallait qu'elle soit finie, en fait. Donc, je ne faisais que ça, quitte à commencer un peu le vendredi soir jusqu'à 2h du matin.
Et, parce que c'est long, quand même.
Ah, mais c'est long, hein, quand même. Alors, souvent, le vendredi soir, j'allais laver mon tissu, le repasser, découper les pièces, et puis le samedi, j'allais coudre. Mais le nombre de fois où c'est arrivé que le samedi soir, on sortait voir nos amis et que j'avais une nouvelle robe que je venais juste de finir. Parce qu'en fait, j'aime bien... c'est pas que j'aime bien être productive, hein, parce que aujourd'hui, surtout, je fais très attention à ma garde-robe, que les choses aillent avec les autres, de pas avoir trop, parce que finalement, je mets toujours la même chose et j'essaye vraiment d'avoir une vie plus responsable et une armoire beaucoup plus durable et responsable. Donc, c'était pareil en couture, mais c'était plus « j'ai vraiment hâte de finir ma robe ». C'était pas « j'ai hâte d'avoir une robe en plus dans mon placard », c'était « j'ai trop hâte de la finir et de la porter ce soir ». C'était plus fait. J'aime pas laisser un projet pendant… un mois et puis je le reprends. Non, quand je le commence, j'aime bien le terminer dans un délai court, entre guillemets.
Oui, je comprends bien.
En moi, tricot, c'est plus dur, mais bon.
Ouais. Moi, samedi matin, je vais voir une de mes meilleures amies, je lui dis « je veux le finir, je veux le porter ». Mais bon, ça se trouve, ça va être loupé. Et je vais dire « maintenant, en fait…
» J'aurais mieux fait de pas le faire. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai toujours eu du mal, par exemple, j'ai jamais cousu de grandes pièces type un manteau. J'ai fait des trenches, mais j'ai jamais fait de manteau parce que je savais que derrière, je n'arriverais pas à le faire dans un nombre d'heures court. Ça allait être un travail de longue haleine et c'est normal. Et du coup, je me suis jamais lancée, ce qui est dommage, mais je me suis jamais lancée. J'ai préféré faire des choses plus rapides, entre guillemets.
Oui. Oui, alors que effectivement, ça prend quand même du temps, mais quelque part, je trouve que c'est beau aussi que ça prenne du temps.
Totalement.
Tu vois, ça n'a pas du tout la même saveur que quand tu achètes un t-shirt, il est tout fait.
C'est ça.
Bon,
ah bah oui.
Il est beau le temps qu'il te plaise, mais je pense que le vêtement que tu as fait toi-même, ça a quand même une autre saveur quand tu le portes et quand tu le reportes, etc.
Et c'est ça que j'aime avec le tricot, c'est qu'en fait, ça me force à ne pas aller trop vite parce que dans tous les cas, on ne peut pas aller trop vite en tricot. Et du coup, ça me force, entre guillemets, à profiter de ce que je suis en train de créer maintenant. Mmh. Et puis après, évidemment, ça a une valeur énorme par la suite. Et puis, bah, c'est tout ça, ce qu'on appelle la slow fashion. C'est ça qu'on essaye de promouvoir avec le fait de créer nos propres vêtements, de savoir d'où vient notre tissu, d'où vient notre laine, comment ça a été créé. Enfin, voilà, toutes les étapes de, en tout cas, dans la laine, de la fibre, entre guillemets, au vêtement porté, ben, on connaît toutes les étapes. Moi, du coup, depuis que j'ai lancé ma laine, je connais toutes les étapes. Et c'est hyper important et ça valorise vachement. Et puis, au final, c'est des pièces qui durent beaucoup plus longtemps que des pièces du commerce. Et elles ont une valeur particulière parce que c'est nous qui les avons faites.
Ouais, exactement. Bon, vive le fait main.
Voilà, exactement.
En toute simplicité.
C'est ça.
Bon. Tu m'as glissé pendant nos échanges en dehors de notre enregistrement que tu avais préparé des cours avec Artesane.
Oui.
Tu peux nous en dire plus ? Ça va sortir quand ?
Oui, bien sûr. Alors, ça faisait très longtemps que je devais faire un cours avec Artesane. Et bon, bah voilà, comme je suis en Angleterre, ça a été compliqué avec le Covid. Mais ça y est, ça s'est enfin tourné. On l'a tourné fin avril. J'étais hyper stressée. Et en fait, ça s'est très, très bien passé. Ils m'ont très bien mise à l'aise. Et puis, une fois que j'étais partie, c'était bon. Alors, j'ai pas encore la date. Au début, on avait parlé du mois de septembre. Et puis, finalement, la personne qui est responsable m'a dit que peut-être ils allaient finalement le sortir un peu plus tôt, genre au mois de juin. Mais j'ai pas eu de nouvelles, donc je ne sais pas. Donc au plus tard, ça sera à la rentrée courant septembre, parce que au début, ils s'étaient dit, bah comme c'est du tricot, c'est peut-être mieux à l'automne. Mais comme c'est un cours très général qui peut être visionné n'importe quand, en fait, parce que moi, je suis une tricoteuse à l'année, pas juste en hiver. Ils se sont posé la question, mais je n'ai pas eu de.
Oui, d'accord. Bon.
Je n'ai pas eu de retour encore. Mais disons c'était pour la rentrée, le cours sera sorti et j'ai très hâte. Enfin, je vais pas le visionner, hein, mais j'ai très hâte d'entendre les retours.
Bon, tu sais qu'il faudra que tu t'écoutes pour me valider cet épisode.
Ah
tu
oui,
pourras.
C'est vrai. Ah là, oui, je vais essayer. Je vais essayer.
Au pire, tu sollicites Harry. Et...
Oui, c'est ça. Oh, il va, à mon avis, il va écouter un moment, puis après, il va dire, oh là là, Anna, elle ne fait que parler. Et là, il va faire genre, c'est mon souci, je suis une grande bavarde.
Ah ben, bah, heureusement, en même temps, pour un podcast que tu parles.
Oui, c'est vrai.
Bon, très bien. J'aime bien poser quelques questions qui n'ont rien à voir avec la choucroute, mais qui nous permettent de te connaître un petit peu plus. Et puis, alors forcément, t'es en Angleterre, et puis tu m'as parlé de Liverpool, alors forcément, je vais te poser ma question. T'es plutôt Rolling Stones ou Beatles ?
Non, moi, je suis Beatles.
Ah, mais trop bien !
Voilà.
Et je me dis, le jour où on me dit Rolling Stones, je serais embêtée. Je dirais, bah non, c'est pas la bonne réponse.
Non. Bon. Voilà, mes parents sont plus Rolling Stones. Moi, je suis Beatles, voilà. Et en plus, on a un petit truc un peu particulier avec Liverpool parce que quand j'ai rencontré Harry, il était en études à Liverpool. Donc, du coup, moi, je suis à Bruxelles, il était à Liverpool. Donc, j'ai été beaucoup à Liverpool les premières années où on était ensemble. Et voilà, c'est une ville assez... assez spécial du coup.
Oui, ouais. Et qui est très sympa. Moi, j'ai
eu le
plaisir d'y aller quelques jours il y a très longtemps maintenant, mais c'était très sympa.
Ouais, c'est très chouette.
Sur les traces des Beatles, évidemment.
Aussi, donc, bien sûr, je l'ai fait également. C'est ça, on est obligé. J'ai plusieurs photos de moi d'il y a 10 ans sur les traces des Beatles.
Ouais, exactement, moi je suis fan, donc c'est génial. Qu'est-ce que tu adores manger ?
Ah, alors en Angleterre ou en France ? Parce que mon souci, hein. moi, ce que j'adore, c'est le fromage.
Ah, bah oui, alors je comprends du coup le souci,
voilà.
C'est ça ?
Ouais, c'est ça, le pain et le fromage. Voilà, en fait, ce que j'aime manger, c'est les trucs qui me manquent, c'est-à-dire le pain, le fromage, la raclette, la tartiflette, que de la nourriture française. Voilà, mais oh, non, on trouve quand même des fromages français... ou des imitations de fromage français en Angleterre qui sont pas trop mauvaises. Le problème, c'est le pain. La baguette, ça va pas. On a du mal à trouver.
Bon, et t'as pas fait ton pain pendant le Covid ?
Si, on l'a fait. Alors, j'ai pas fait le pain ou le vin comme tout le monde a fait. Ouais. On a fait dans la machine à pain parce qu'encore une fois, moi, je fais que tricoter, donc j'ai du mal à trouver du temps pour autre chose. non, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément. C'était en plein pendant la naissance de Suzanne, donc on n'a pas eu le temps. Mais ça m'a donné bien envie. Ma belle-mère en a fait et c'était bon. Si, c'était ouais, c'était très très bon. Il va falloir qu'on s'y mette un jour.
Bon, sur la to-do list pour plus tard.
Voilà. Si quelqu'un a envie de lancer, de venir à Exeter et de lancer une boulangerie française, je suis sûre que ça cartonnerait. Parce que franchement, on est une grosse communauté française en manque de pain, donc je pense que ça marcherait. Mais personne ne s'est décidé encore.
Avis à la population.
Voilà.
Très bien. Est-ce que tu lis ? Qu'est-ce que tu aimes lire ?
Ah, moi j'aime lire, j'aime lire un peu de tout, mais j'aime bien les trucs un peu plus criminels ou les romans, ouais. Il y a tout un truc avec les tricoteurs et les trucs criminels, que ce soit des podcasts audio, des podcasts vidéo ou des livres. mais sinon j'aime bien là les il y a un livre que je viens de finir, que je n'avais encore jamais lu, mais je suis une grande fan de la série, c'est The Handmaid's Tale de Margaret Atwood. Et c'est, comment ça s'appelle en français? Je ne sais pas si on appelle ça The Handmaid's Tale ou si on appelle ça... Au Québec, ils appelaient ça La Servante Écarlate.
Oui, c'est ça. Mais c'est une série, c'est aussi, hein.
Oui, c'est ça. Donc, en fait, moi, je savais que ça existait en livre, mais je suis une fan inconditionnelle de la série. Je pense que c'est ma série préférée. Et du coup, j'ai lu récemment, comme je suis en manque de la série, j'ai lu le premier livre ainsi que le deuxième. Et j'ai adoré. J'aime bien les livres aussi comme ça qui viennent nous chercher au niveau des émotions. Ça me plaît bien.
Oui, il y a un côté un peu dérangeant dans tout ça.
C'est ça, exactement.
Moi, j'ai entreaperçu la série quand mon mari l'a regardée et il y a un côté un peu...
Ah, c'est très dur, hein. Ouais, c'est très, très dur. Moi, je connais plein de gens qui ont abandonné parce que c'était trop dur émotionnellement. Et moi, je pleure à chaque épisode. Hein. En plus, je suis très sensible comme personne. Je pleure à chaque épisode, mais je n'ai jamais vu quelque chose à la télé comme ça qui vienne autant me chercher au niveau des émotions. Et je trouve ça magnifique, en fait. Voilà. Je me suis dit, j'ai envie de lire les livres pour voir ce que ça donnait. Donc, c'est des livres que j'ai finis récemment. Mais j'aime bien lire un peu de tout, en fait. J'aime bien aussi des livres un peu plus légers, voilà. Je n'ai pas de gros choix particuliers.
Oui, ouais, d'accord, ok. Est-ce qu'il y a un loisir créatif que tu rêves d'essayer?
Bonne question. Qu'est-ce que je n'aurais pas encore essayé? J'aimerais bien, j'avais acheté plein de choses pour faire de l'aquarelle. Au début du Covid, et je m'étais dit que quand on serait en confinement, Alice adore faire de la peinture, donc elle ferait de la peinture et moi je serais à côté en train de faire de l'aquarelle. Finalement, ce que j'avais pas compté, c'était j'étais en fin de grossesse et que j'avais pas du tout l'énergie pour apprendre l'aquarelle. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. J'aimerais bien me lancer, prendre le temps, en fait, me forcer à prendre le temps de me lancer dans l'aquarelle, parce que quand j'étais plus jeune, je dessinais beaucoup, j'adorais ça et j'étais pas si mauvaise. Et j'ai complètement abandonné, ce qui aujourd'hui je me trouve nulle en dessin parce qu'en fait j'ai jamais.
Oui, tu t'exerces pas.
Non, j'ai jamais exercé ça. Et puis le punch needle, j'aimerais bien essayer aussi.
C'est ce que j'allais te dire avec la laine.
C'est ça. Ouais, j'ai rencontré l'auteur du livre Punch Needle justement. Que je fais pas de salon hein, en tant que créatrice de langue avec Anna, mais je fais pas mal de salons en tant que Anna Dervoot autrice avec Erol à chaque fois, l'AEF et le CSF, voire d'autres événements dans des boutiques. Et du coup, j'ai la chance de pouvoir discuter avec les autres autrices chez Erol et ça, le punch needle, c'est un truc qui me dirait bien aussi. Ça n'a pas l'air trop compliqué non plus. Ça a tenté.
Ok. Et alors, si je te demande, dernière question, qu'est-ce que tu emmènes sur une île déserte? Mais je crois que tu vas me dire tes aiguilles et ton talène.
Bah ouais, mon tricot. Ouais. Ouais, mon tricot. Et c'est drôle parce que justement pour à notre mariage le mois dernier, on avait fait un petit quiz pour nos invités avec des questions sur moi, des questions sur mon conjoint, pour voir qui nous connaissait le mieux, etc. Et c'était une question qu'on avait posée et moi je me suis trompée pour mon conjoint d'ailleurs. Quelle honte. Mais moi la réponse c'était tout le monde a trouvé. C'était son tricot. Bah oui, son tricot.
Forcément.
C'est sûr. Forcément. Absolument, ouais. Le problème, c'est que je serais vite à court de laine, à moins d'emmener une valise entière. Mais,
oui, voilà, après, tu tricot, peux peut-être, ouais. Y a peut-être des
me faire livrer. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est
avec les plantes, tu vois.
Ouais. Donc, du coup, je vais peut-être me mettre à filer finalement, si jamais. Voilà, non, le tricot, pour sûr. Bon.
Ça marche. Écoute, pour conclure, j'aimerais te poser ma dernière question un peu fétiche. De quoi tu es la plus fière ?
Waouh ! Ça, c'est une question qui est super difficile pour moi parce que je ne m'autorise pas vraiment à prendre du recul et à regarder ce qui se passe. De quoi je suis la plus fière, si je parle autour de moi, je dirais je suis fière de mon conjoint de me soutenir comme ça sans faille depuis le début et de mes filles qui me supportent avec le tricot. Voilà, qui sont vraiment une je suis fière d'avoir une famille avec qui me soutient autant dans mes projets. Et puis si je parle de moi avec Longue avec Anna, je suis fière d'avoir réussi à créer cette petite entreprise avec encore une fois le soutien de mes abonnés et de mes clientes, tout en essayant de gérer la maternité en même temps. Ça, je me dis que c'est pas simple au quotidien, ça ne l'était pas et ça ne l'est pas. Et il faut que je prenne le temps de me féliciter entre guillemets pour ça aussi parce que c'est jamais facile. Et puis c'est ça. Je suis fière de ma famille et fière de travailler tout en m'occupant d'eux.
Ouais, effectivement, c'est quand même un challenge. Hein. Je pense qu'on l'oublie, on l'oublie même...
tout. Hein.
Oui, voilà, c'est ça. Hein, quelle que soit l'activité professionnelle ou l'activité à la maison aussi, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas de travail en dehors de la maison. Que voilà, il n'y a pas de travail à la maison.
Ah non, ça c'est sûr.
Ouais. Donc effectivement, allez, force à nous, on est trop fortes.
C'est ça, on est des femmes, on est fortes et on le sait et il faut se féliciter de ça.
Ouais, c'est ça. Et se faire des petits plaisirs, des petites récompenses aussi, potentiellement avec nos loisirs créatifs. Moi, ça fait moins grossir que le chocolat, c'est pas mal.
Oui,
aussi.
En plus, oui, voilà. Ouais, non, ça c'est sûr. Ouais, c'est... Ouais, sinon, je mangerai un peu trop de chocolat aussi. Donc.
Bon, bah, parfait. Merci beaucoup pour ton temps, Anna. Et
merci
puis, bah, évidemment,
toi.
On te retrouve sur Internet, sur ton site, sur Insta, tout ça.
Voilà, je suis Elongue avec Anna partout, donc c'est facile. voilà, c'est facile de me retrouver.
Bon, super. Merci beaucoup, Anna. À bientôt.
Merci, à bientôt.
Me revoici. Pour retrouver Anna, c'est donc sur elongueavecanna.com et sur Instagram, vous connaissez le chemin, pour suivre le quotidien d'Anna. Si cette conversation vous a plu, vous avez tout un tas d'épisodes à découvrir. Sur le tricot, la couture, la broderie par exemple, mais aussi sur le travail du papier, l'illustration, l'aquarelle. Plein de créatrices et de créateurs qui nous racontent leur aventure créative et entrepreneuriale. C'est passionnant. Et avec cet épisode, on marque un peu le début de l'été, mais surtout une pause que je m'accorde cette année. Habituellement, je ne résiste pas à l'envie de diffuser des nouveaux épisodes, mais cette année, mon planning ne s'y prête pas vraiment. J'ai une échéance importante en septembre pour un projet qui m'enthousiasme énormément, et je veux pouvoir m'y consacrer pleinement et tranquillement cet été. Je vous retrouverai donc avec grand plaisir dans quelques semaines, sans doute fin août ou début septembre. D'ici là, je vous souhaite de tout cœur de prendre le temps de profiter des vôtres, de flâner, de prendre le temps de vous ennuyer aussi, pourquoi pas, mais aussi et surtout de créer. Je vous embrasse, à bientôt.